Chapitre 2. La vicomtesse resta muette. Gaston rougit, il pensait l'avoir offensée. Mais cette femme était surprise par le premier plaisir profond et vrai qu'elle ressentait depuis le jour de son malheur. Le roué le plus habile n'eût pas fait, à force d'art, le progrès que M. de Nueil dut à ce cri parti du cœur. Ce jugement arraché à la candeur d'un homme jeune la rendait innocente à ses yeux, condamnait le monde, accusait celui qui l'avait quitté et justifiait la solitude où elle était venue languir. L'absolution mondaine, les touchantes sympathies, l'estime sociale tant souhaitée, si cruellement refusée, enfin ses plus secrets désirs, étaient accomplis par cette exclamation qu'embellissait encore les plus douces flatteries du cœur et cette admiration toujours avidement savourée par les femmes. Elle était donc entendue et comprise. Monsieur de Nueil lui donnait tout naturellement l'occasion de se grandir de sa chute. Elle regarda la pendule. « Oh, madame, s'écria Gaston, ne me punissez pas de mon étourderie. Si vous ne m'accordez qu'une soirée, daignez ne pas l'abréger encore. » Elle sourit du compliment. « Mais, dit-elle, puisque nous ne devons plus nous revoir, qu'importe un moment de plus ou de moins. Si je vous plaisais, ce serait un malheur. »« Un malheur tout venu, répondit-il tristement. « Oh, ne me dites pas cela, » reprit-elle gravement. « Dans toute autre position, je vous recevrai avec plaisir. Je vais vous parler sans détour. Vous comprendrez pourquoi je ne veux pas, pourquoi je ne dois pas vous recevoir. Je vous crois l'âme trop grande pour ne pas sentir que si j'étais seulement soupçonné d'une seconde faute, je deviendrais pour tout le monde une femme méprisable et vulgaire, je ressemblerais aux autres femmes. Une vie pure et sans tache donnera donc du relief à mon caractère. Je suis trop fier pour ne pas essayer de demeurer au milieu de la société comme un être à part, victime des lois par mon mariage, victime des hommes par mon amour. Si je ne restais pas fidèle à ma position, je mériterais tout le blâme qui m'accable et perdrais ma propre estime. Je n'ai pas eu la haute vertu sociale d'appartenir à un homme que je n'aimais pas. J'ai brisé, malgré les lois, les liens du mariage. C'était un tort, un crime. Ce sera tout ce que vous voudrez, mais pour moi cet état équivalait à la mort. J'ai voulu vivre. Si j'eusse été mère, peut-être aurais-je trouvé des forces pour supporter le supplice d'un mariage imposé par les convenances. À 18 ans, nous ne savons guère, pauvre jeune fille, ce que l'on nous fait faire. J'ai violé les lois du monde, le monde m'a puni, nous étions justes l'un et l'autre. J'ai cherché le bonheur. N'est-ce pas une loi de notre nature que d'être heureuse? J'étais jeune, j'étais belle. J'ai cru rencontrer un être aussi aimant qu'il paraissait passionné. J'ai été bien aimé pendant un moment. Elle fit une pause. Je pensais, reprit-elle, qu'un homme ne devait jamais abandonner une femme dans la situation où je me trouvais. J'ai été quitté, j'aurais déplu. Oui, j'ai manqué sans doute à quelques lois de nature. J'aurais été trop aimante, trop dévouée ou trop exigeante, je ne sais. Le malheur m'a éclairée. Après avoir été longtemps l'accusatrice, je me suis résignée à être la seule criminelle. J'ai donc absous à mes dépens celui de qui je croyais avoir à me plaindre. Je n'ai pas été assez adroite pour le conserver. La destinée m'a fortement punie de ma maladresse. Je ne sais qu'aimer. Le moyen de penser à soi quand on aime. J'ai donc été l'esclave quand j'aurais dû me faire tyran. Ceux qui me connaîtront pourront me condamner, mais ils m'estimeront. Mes souffrances m'ont appris à ne plus m'exposer à l'abandon. Je ne comprends pas comment j'existe encore. Après avoir subi les douleurs des 8 premiers jours qui ont suivi cette crise la plus affreuse dans la vie d'une femme. Il faut avoir vécu pendant 3 ans seul pour avoir acquis la force de parler comme je le fais en ce moment de cette douleur. L'agonie se termine ordinairement par la mort. Eh bien, monsieur, c'était une agonie sans le tombeau pour dénouement. Oh, j'ai bien souffert. La vicomtesse leva ses beaux yeux vers la corniche à laquelle sans doute elle confia tout ce que ne devait pas entendre un inconnu. Une corniche est bien la plus douce, la plus soumise, la plus complaisante confidente que les hommes et les femmes puissent trouver dans les occasions où ils n'osent regarder leur interlocuteur. La corniche d'un boudoir est une institution, n'est-ce pas, un confessionnal, moins le prêtre. En ce moment, Madame de Beauséant était éloquente et belle, il faudrait dire coquette, si ce mot n'était pas trop fort. En se rendant justice, en mettant entre elle et l'amour les plus hautes barrières, elle aiguillonnait tous les sentiments de l'homme, et plus elle levait le but, plus elle l'offrait au regard. Enfin, elle baissa ses yeux sur Gaston, après leur avoir fait perdre l'expression trop attachante que leur avait communiqué le souvenir de ses peines. « Avouez que je dois rester froide et solitaire, » lui dit-elle d'un ton calme. Monsieur de Nueil se sentait une violente envie de tomber aux pieds de cette femme alors sublime de raison et de folie. Il craignit de lui paraître ridicule. Il réprima donc son exaltation et ses pensées. Il éprouvait à la fois et la crainte de ne point réussir à les bien exprimer et la peur de quelque terrible refus ou d'une moquerie dont l'appréhension glace les âmes les plus ardentes. La réaction des sentiments qu'il refoulait au moment où il s'élançait de son cœur lui causa cette douleur profonde que connaissent les gens timides et les ambitieux, souvent forcés de dévorer leurs désirs. Cependant, il ne put s'empêcher de rompre le silence pour dire d'une voix tremblante « Permettez-moi, madame, de me livrer à une des plus grandes émotions de ma vie en vous avouant ce que vous me faites éprouver. Vous m'agrandissez le cœur. Je sens en moi le désir d'occuper ma vie à vous faire oublier vos chagrins, à vous aimer pour tous ceux qui vous ont haï ou blessé. Mais c'est une fusion de cœur bien soudaine, qu'aujourd'hui rien ne justifie, et que je devrais... « Assez, monsieur, » dit Madame de Beauséant. Nous sommes allés trop loin l'un et l'autre. J'ai voulu dépouiller de toute dureté le refus qui m'est imposé, vous en expliquer les tristes raisons, et non m'attirer des hommages. La coquetterie ne va bien qu'à la femme heureuse. Croyons bien, restons étrangers l'un à l'autre. Plus tard, vous saurez qu'il ne faut point former de lien quand ils doivent nécessairement se briser un jour. Elle soupira légèrement et son front se plissa pour reprendre aussitôt la pureté de sa forme. « Quelle souffrance pour une femme, reprit-elle, de ne pouvoir suivre l'homme qu'elle aime dans toutes les phases de sa vie. Puis ce profond chagrin ne doit-il pas horriblement retentir dans le cœur de cet homme si elle en est bien aimée? N'est-ce pas un double malheur ? » Il y eut un moment de silence, après lequel elle dit en souriant et en se levant pour faire lever son hôte « Vous ne vous doutiez pas, en venant à Courcelles, d'y entendre un sermon. » Gaston se trouvait en ce moment plus loin de cette femme extraordinaire qu'à l'instant où il l'avait abordée. Attribuant le charme de cette heure délicieuse à la coquetterie d'une maîtresse de maison jalouse de dépouiller son esprit, il salua froidement la vicomtesse et sortit désespéré. Chemin faisant, le baron cherchait à surprendre le vrai caractère de cette créature souple et dure comme un ressort. Mais il lui avait vu prendre tant de nuances qu'il lui fut impossible d'asseoir sur elle un jugement vrai. Puis les intonations de sa voix lui retentissaient encore aux oreilles et le souvenir prêtait tant de charme aux gestes, aux airs de tête, aux jeux des yeux, qu'il s'éprit davantage à cet examen. Pour lui, la bonté de la vicomtesse reluisait encore dans les ténèbres. Les impressions qu'il en avait reçues se réveillaient et attiraient l'une par l'autre, pour de nouveau le séduire en lui révélant des grâces de femme et d'esprit inaperçus d'abord. Il tomba dans une de ces méditations vagabondes pendant lesquelles les pensées les plus lucides se combattent, se brisent les unes contre les autres et jettent l'âme dans un court accès de folie. Il faut être jeune pour révéler et pour comprendre les secrets de ces sortes de dithyrambes où le cœur, assailli par les idées les plus justes et les plus folles, cède à la dernière qui le frappe, à une pensée d'espérance ou de désespoir, au gré d'une puissance inconnue. À l'âge de 23 ans, l'homme est presque toujours dominé par un sentiment de modestie. Les timidités, les troubles de la jeune fille l'agitent. Il a peur de mal exprimer son amour. Il ne voit que des difficultés, s'en effraie. Il tremble de ne pas plaire. Il serait hardi s'il n'aimait pas tant. Et plus il sent le prix du bonheur, moins il croit que sa maîtresse puisse lui facilement accorder. D'ailleurs, peut-être se livre-t-il trop entièrement à son plaisir et craint-il de n'en pouvoir donner. Lorsque par malheur son idole est imposante, il adore en secret et de loin. S'il n'est pas deviné, son amour expire. Souvent cette passion hâtive, morte dans un jeune cœur, y reste brillante d'illusions. Quel homme n'a pas plusieurs de ces vierges souvenirs qui, plus tard, se réveillent toujours plus gracieux et apportent l'image d'un bonheur parfait ? Souvenirs semblables à ces enfants perdus à la fleur de l'âge et dont les parents n'ont connu que les sourires. Monsieur de Nuel revient donc de Courcelles en proie à un sentiment gros de résolutions extrêmes. Madame de Beauséant était déjà devenue pour lui la condition de son existence. Il aimait mieux mourir que de vivre sans elle. Encore assez jeune pour ressentir ces cruelles fascinations que la femme parfaite exerce sur les âmes neuves et passionnées, il dut passer une de ces nuits orageuses, pendant lesquelles les jeunes gens vont du bonheur au suicide, du suicide au bonheur, dévorent toute une vie heureuse et s'endorment impuissants. Nuit fatale, où le plus grand malheur qui puisse arriver est de se réveiller philosophe. Trop véritablement amoureux pour dormir, M. de Nueil se leva, se mit à écrire des lettres, dont aucune ne le satisfit et les brûla toutes. Le lendemain, il alla faire le tour du petit enclos de Courcelles. Mais à la nuit tombante, car il avait peur d'être aperçu par la comtesse. Le sentiment auquel il obéissait alors appartient à une nature d'âme si mystérieuse qu'il faut être encore jeune homme ou se trouver dans une situation semblable pour en comprendre les muettes félicités et les bizarreries. Toute chose qui ferait hausser les épaules aux gens assez heureux pour toujours voir le positif de la vie. Après des hésitations cruelles, Gaston écrivit à Madame de Beauséant la lettre suivante qui peut passer pour un modèle de la phraséologie particulière aux amoureux et se comparer aux dessins faits en cachette par les enfants pour la fête de leurs parents. Présent détestable pour tout le monde, excepté pour ceux qui les reçoivent. Madame, Vous exercez un si grand empire sur mon cœur, sur mon âme et ma personne, qu'aujourd'hui ma destinée dépend entièrement de vous. Ne jetez pas ma lettre au feu. Soyez assez bienveillante pour la lire. Peut-être me pardonnerez-vous cette première phrase en vous apercevant que ce n'est pas une déclamation vulgaire ni intéressée, mais l'expression d'un fait naturel. Peut-être serez-vous touché par la modestie de mes prières, par la résignation que m'inspire le sentiment de mon infériorité, par l'influence de votre détermination sur ma vie. À mon âge, madame, je ne sais qu'aimer. J'ignore entièrement et ce qui peut plaire à une femme et ce qui la séduit. Mais je me sens au cœur pour elle d'enivrantes adorations. Je suis irrésistiblement attiré vers vous, par le plaisir immense que vous me faites éprouver, et pense à vous avec tout l'égoïsme qui nous entraîne, là où, pour nous, est la chaleur vitale. Je ne me crois pas digne de vous. Non, il me semble impossible à moi, jeune, ignorant, timide, de vous apporter la millième partie du bonheur que j'aspirais en vous entendant, en vous voyant. Vous êtes pour moi la seule femme qu'il y ait dans le monde. Ne concevons point la vie sans vous. J'ai pris la résolution de quitter la France et d'aller jouer mon existence jusqu'à ce que je la perde dans quelque entreprise impossible aux Indes, en Afrique, enfin je ne sais où. Ne faut-il pas que je combatte un amour sans bornes par quelque chose d'infini? Mais si vous voulez me laisser l'espoir, non pas d'être à vous, mais d'obtenir votre amitié, je reste. Permettez-moi de passer près de vous, rarement même si vous l'exigez, quelques heures semblables à celles que j'ai surprises. Ce frêle bonheur, dont les vives jouissances peuvent m'être interdites à la moindre parole trop ardente, suffira pour me faire endurer les bouillonnements de mon sang. Ai-je trop présumé de votre générosité en vous suppliant de souffrir un commerce où tout est profit pour moi seulement? Vous saurez bien faire voir à ce monde auquel vous sacrifiez tant que je ne vous suis rien. Vous êtes si spirituel et si fier. Qu'avez-vous à craindre? Maintenant, je voudrais pouvoir vous ouvrir mon cœur afin de vous persuader que mon humble demande ne cache aucune arrière-pensée. Je ne vous aurais pas dit que mon amour était sans bornes en vous priant de m'accorder de l'amitié si j'avais l'espoir de vous faire partager le sentiment profond enseveli dans mon âme. Non, je serai près de vous ce que vous voudrez que je sois, pourvu que j'y sois. Si vous me refusiez, et vous le pouvez, je ne murmurerai point, je partirai. Si plus tard une femme autre que vous entre pour quelque chose dans ma vie, vous aurez eu raison. Mais si je meurs fidèle à mon amour, vous concevrez quelques regrets, peut-être. L'espoir de vous causer un regret adoucira mes angoisses et sera toute la vengeance de mon cœur méconnu. Il faut n'avoir ignoré aucun des excellents malheurs du jeune âge. Il faut avoir grimpé sur toutes les chimères aux doubles ailes blanches qui offrent leur croupe féminine à de brûlantes imaginations pour comprendre le supplice auquel Gaston de Nueil fut en proie quand il supposa son premier ultimatum entre les mains de Madame de Beauséant. Il voyait la vicomtesse froide, rieuse et plaisantant de l'amour comme les êtres qui n'y croient plus. Il aurait voulu reprendre sa lettre, il la trouvait absurde, il lui venait dans l'esprit mille et une idées infiniment meilleures ou qui eussent été plus touchantes, que ces froides phrases, ces maudites phrases alambiquées, sophistiquées, prétentieuses, mais heureusement assez mal ponctuées et fort bien écrites de travers. Il essayait de ne pas penser, de ne pas sentir, mais il pensait, il sentait et il souffrait. S'il avait eu 30 ans, il se serait enivré. Mais ce jeune homme, encore naïf, ne connaissait ni les ressources de l'opium, ni les expédients de l'extrême civilisation. Il n'y avait pas là, près de lui, un de ses bons amis de Paris, qui savent si bien vous dire, poète, non-honnête, en vous tendant une bouteille de vin de champagne, ou vous entraîne à une orgie pour vous adoucir les douleurs de l'incertitude. Excellents amis, toujours ruinés lorsque vous êtes riches, toujours aux eaux quand vous les cherchez, ayant toujours perdu leur dernier louis au jeu quand vous leur en demandez, mais ayant toujours un mauvais cheval à vous vendre, au demeurant les meilleurs enfants de la terre, et toujours prêts à s'embarquer avec vous pour descendre une de ces pentes rapides sur lesquels il se dépense le temps, l'âme et la vie. Enfin, monsieur de Nueil reçut des mains de Jacques une lettre ayant un cachet de cire parfumé aux armes de Bourgogne, écrite sur un petit papier vélin et qui sentait la jolie femme. Il courut aussitôt s'enfermer pour lire et relire sa lettre. Vous me punissez bien sévèrement, monsieur, et de la bonne grâce que j'ai mise à vous sauver la rudesse d'un refus, et de la séduction que l'esprit exerce toujours sur moi. J'ai eu confiance en la noblesse du jeune âge, et vous m'avez trompé. Cependant, je vous ai parlé, sinon à cœur ouvert, ce qui eût été parfaitement ridicule, du moins avec franchise, et vous ai dit ma situation, afin de faire concevoir ma froideur à une âme jeune. Plus vous m'avez intéressé, plus vive a été la peine que vous m'avez causée. Je suis naturellement tendre et bonne, mais les circonstances me rendent mauvaise. Une autre femme eût brûlé votre lettre sans lire, moi je l'ai lue et j'y réponds. Mes raisonnements vous prouveront que, si je ne suis pas insensible à l'expression d'un sentiment que j'ai fait naître, même involontairement, je suis loin de le partager, et ma conduite vous démontrera bien mieux encore la sincérité de mon âme. Puis j'ai voulu, pour votre bien, employer l'espèce d'autorité que vous me donnez sur votre vie, et désire l'exercer une seule fois, pour faire tomber le voile qui vous couvre les yeux. J'ai bientôt 30 ans, monsieur, et vous en avez 22 à peine. Vous ignorez vous-même ce que seront vos pensées quand vous arriverez à mon âge. Les serments que vous jurez si facilement aujourd'hui pourront alors vous paraître bien lourds. Aujourd'hui, oh, je veux bien le croire, vous me donneriez sans regret votre vie entière, vous sauriez mourir même pour un plaisir éphémère. Mais à 30 ans, l'expérience vous ôterait la force de me faire chaque jour des sacrifices, et moi je serais profondément humilié de les accepter. Un jour, tout vous commandera, la nature elle-même vous ordonnera de me quitter. Non, je vous l'ai dit, je préfère la mort à l'abandon. Vous le voyez, le malheur m'a appris à calculer. Je raisonne, je n'ai point de passion. Vous me forcez à vous dire que je ne vous aime point, que je dois, ne peux, ni ne veux vous aimer. J'ai passé le moment de la vie où les femmes cèdent à des mouvements de cœur irréfléchis et ne sauraient plus être la maîtresse que vous quêtez. Mes consolations, monsieur, viennent de Dieu et non des hommes. D'ailleurs, je lis trop clairement dans les cœurs à la triste lumière de l'amour trompé pour accepter l'amitié que vous demandez, que vous offrez. Vous êtes la dupe de votre cœur, et vous espérez bien plus en ma faiblesse qu'en votre force. Tout cela est un effet d'instinct. Je vous pardonne cette ruse d'enfant, vous n'en êtes pas encore complice. Mais je vous ordonne, au nom de cet amour passager, au nom de votre vie, au nom de ma tranquillité, de rester dans votre pays, de ne pas y manquer une vie honorable et belle, pour une illusion qui s'éteindra nécessairement. Plus tard, lorsque vous aurez, en accomplissant votre véritable destinée, développé tous les sentiments qui attendent l'homme, vous apprécierez ma réponse, que vous accusez peut-être en ce moment de sécheresse. Vous retrouverez alors avec plaisir une vieille femme dont l'amitié vous sera certainement douce et précieuse. Elle n'aura été soumise ni aux vicissitudes de la passion, ni aux désenchantements de la vie. Enfin, de nobles idées, des idées religieuses, la conserveront pure et sainte. Adieu, monsieur. Obéissez-moi, en pensant que vos succès jetteront quelque plaisir dans ma solitude, et ne songez plus à moi que comme on songe aux absents. Après avoir lu cette lettre, Gaston de Nueil écrivit ces mots. « Madame, si je cessais de vous aimer en acceptant les chances que vous m'offrez d'être un homme ordinaire, je mériterais bien mon sort, avouez-le. Non, je ne vous obéirai pas, et je vous jure une fidélité qui ne se déliera que par la mort. Oh, prenez ma vie, à moins cependant que vous ne craigniez de mettre un remords dans la vôtre. » Quand le domestique de M. de Nueil revint de Courcelles, son maître lui dit « À qui as-tu remis mon billet ?»« À Madame la Vicomtesse elle-même. Elle était en voiture et partait. Pour venir en ville ? Oh, monsieur, je ne le pense pas. La berline de Madame la Vicomtesse était attelée avec des chevaux de poste. Ah, elle s'en va, dit le baron. Oui, monsieur, répondit le valet de chambre. Aussitôt, Gaston fit ses préparatifs pour suivre Madame de Beauséant. La vicomtesse le mena jusqu'à Genève, sans se savoir accompagné par lui. Entre les mille réflexions qui l'assaillirent pendant ce voyage, celle-ci, mais pourquoi s'est-elle en allée, l'occupa plus sérieusement. Ce mot fut le texte d'une multitude de suppositions parmi lesquels il choisit naturellement la plus flatteuse, et que voici. Si la vicomtesse veut m'aimer, il n'y a pas de doute qu'en femme d'esprit, elle préfère la Suisse, où personne ne nous connaît, à la France, où elle rencontrerait des censeurs. Certains hommes passionnés n'aimeraient pas une femme assez habile pour choisir son terrain. C'est des raffinés. D'ailleurs, rien ne prouve que la supposition de Gaston fût vraie. La vicomtesse prit une petite maison sur le lac. Quand elle y fut installée, Gaston s'y présenta par une belle soirée à la nuit tombante. Jacques, valet de chambre essentiellement aristocratique, ne s'étonna point de voir M. de Nueil et l'annonça en valet habitué à tout comprendre. En entendant ce nom, en voyant le jeune homme, Madame de Beauséant laissa tomber le livre qu'elle tenait. Sa surprise donna le temps à Gaston d'arriver à elle et de lui dire d'une voix qui lui parut délicieuse « Ah, avec quel plaisir ! Je prenais les chevaux qui vous avaient menés. » Être si bien obéi dans ses vœux secrets, où est la femme qui n'eût pas cédé à un tel bonheur? Une Italienne, une de ces divines créatures dont l'âme est à l'antipode de celle des Parisiennes et que de ce côté des Alpes l'on trouverait profondément immorale, disait en lisant des romans français Je ne vois pas pourquoi ces pauvres amoureux passent autant de temps à arranger ce qui doit être l'affaire d'une matinée. Et pourquoi le narrateur ne pourrait-il pas, à l'exemple de cette bonne italienne, ne pas trop faire languir ses auditeurs ni son sujet? Il y aurait bien quelques scènes de coquetterie charmantes à dessiner, doux retards que Madame de Beauséant voulait apporter au bonheur de Gaston pour tomber avec grâce comme les vierges de l'Antiquité. Peut-être aussi pour jouir des voluptés chastes d'un premier amour et le faire arriver à sa plus haute expression de force et de puissance. Monsieur de Nueil était encore dans l'âge où un homme est la dupe de ses caprices, de ses jeux qui affriandent tant les femmes, et qu'elles prolongent, soit pour bien stipuler leurs conditions, soit pour jouir plus longtemps de leur pouvoir, dont la prochaine diminution est instinctivement devinée par elles. Mais ces petits protocoles de boudoir, moins nombreux que ceux de la Conférence de Londres, tiennent trop peu de place dans l'histoire d'une passion vraie pour être mentionné. Madame de Beauséant et Monsieur de Nueil demeurèrent pendant 3 années dans la villa située sur le lac de Genève que la vicomtesse avait louée. Ils y restèrent seuls, sans voir personne, sans faire parler d'eux, se promenant en bateau, se levant tard, enfin heureux, comme nous rêvons tous de l'être. Cette petite maison était simple, à persiennes vertes, entourée de larges balcons ornés de tentes, une véritable maison d'amant, maison à canapé blanc, à tapis muet, à tenture fraîche, où tout reluisait de joie. À chaque fenêtre, le lac apparaissait sous des aspects différents. Dans le lointain, les montagnes et leurs fantaisies nuageuses, colorées, fugitives, au-dessus d'eux un beau ciel, puis devant eux une longue nappe d'eau, capricieuse, changeante. Les choses semblaient rêver pour eux, et tout leur souriait. Des intérêts graves rappelèrent M. de Nueil en France. Son frère et son père étaient morts. Il fallut quitter Genève. Les deux amants achetèrent cette maison. Ils auraient voulu briser les montagnes et faire enfuir l'eau du lac en ouvrant une soupape afin de tout emporter avec eux. Madame de Beauséant suivit M. de Nueil. Elle réalisa sa fortune, acheta près de Manerville une propriété considérable qui joignait les terres de Gaston et où ils demeurèrent ensemble. M. de Nueil abandonna très gracieusement à sa mère l'usufruit des domaines de Manerville en retour de la liberté qu'elle lui laissa de vivre garçon. La terre de Madame de Beauséant était située près d'une petite ville dans une des plus jolies positions de la vallée d'Auge. Là, les deux amants mirent entre eux et le monde des barrières que ni les idées sociales ni les personnes ne pouvaient franchir et retrouvèrent leur bonne journée de la Suisse. Pendant 9 années entières, ils goûtèrent un bonheur qu'il est inutile de décrire. Le dénouement de cette aventure en fera sans doute deviner les délices à ceux dont l'âme peut comprendre dans l'infini de leur mode la poésie et la prière. Cependant, le marquis de Beauséant, son père et son frère aîné étaient morts, le mari de Madame de Beauséant jouissait d'une parfaite santé. Rien ne nous aide mieux à vivre que la certitude de faire le bonheur d'autrui par notre mort. Monsieur de Beauséant était d'un ces gens ironiques et entêtés qui, semblables à des rentiers viagers, trouvent un plaisir de plus que n'en ont les autres à se lever bien portant chaque matin. Galant homme, du reste, un peu méthodique, cérémonieux et calculateur, capable de déclarer son amour à une femme aussi tranquillement qu'un laquais dit « Madame est servie ». Cette petite notice biographique sur le marquis de Beauséant a pour objet de faire comprendre l'impossibilité dans laquelle était la marquise d'épouser M. de Nueil. Or, après ces 9 années de bonheur, le plus doux bail qu'une femme ait jamais pu signer, M. de Nueil et Mme de Beauséant se trouvèrent dans une situation tout aussi naturelle et tout aussi fausse que celle où ils étaient restés depuis le commencement de cette aventure, crise fatale néanmoins, de laquelle il est impossible de donner une idée, mais dont les termes peuvent être posés avec une exactitude mathématique. Madame la comtesse de Nueil, mère de Gaston, n'avait jamais voulu voir Madame de Beauséant. C'était une personne roide et vertueuse qui avait très légalement accompli le bonheur de M. de Nueil, le père. Madame de Beauséant comprit que cette honorable douairière devait être son ennemie et tenterait d'arracher Gaston à sa vie immorale et anti-religieuse. La marquise aurait bien voulu vendre sa terre et retourner à Genève, mais, c'eût été se défier de M. de Nueil, elle en était incapable. D'ailleurs, il avait précisément pris beaucoup de goût pour la terre de Valleroy, où il faisait force plantation, force mouvement de terrain. N'était-ce pas à l'arracher à une espèce de bonheur mécanique que les femmes souhaitent toujours à leurs maris et même à leurs amants? Il était arrivé dans le pays une demoiselle de Larodière, âgée de 22 ans et riche de 40 000 livres de rente. Gaston rencontrait cette héritière à Manerville toutes les fois que son devoir l'y conduisait. Ces personnages étant ainsi placés comme les chiffres d'une proportion arithmétique, la lettre suivante, écrite et remise ce matin à Gaston, expliquera maintenant l'affreux problème que depuis un mois Madame de Beauséant tâchait de résoudre. Mon ange aimé, t'écrire quand nous vivons cœur à cœur, quand rien ne nous sépare, quand nos caresses nous servent si souvent de langage et que les paroles sont aussi des caresses, n'est-ce pas un contresens? Eh bien non, mon amour. Il est de certaines choses qu'une femme ne peut dire en présence de son amant. La seule pensée de ces choses lui ôte la voix, lui fait refluer tout son sang vers le cœur. Elle est sans force et sans esprit. Être ainsi près de toi me fait souffrir, et souvent j'y suis ainsi. Je sens que mon cœur doit être tout vérité pour toi, ne te déguiser aucune de ses pensées, même les plus fugitives, et j'aime trop ce doux laisser-aller qui me sied si bien pour rester plus longtemps gênée et contrainte. Aussi vais-je te confier mon angoisse. Oui, c'est une angoisse. Écoute-moi. Ne fais pas ce petit ta-ta-ta par lequel tu me fais taire avec une impertinence que j'aime, parce que de toi tout me plaît. Cher époux du ciel, laisse-moi te dire que tu as effacé tout souvenir des douleurs sous le poids desquelles jadis ma vie allait succomber. Je n'ai connu l'amour que par toi. Il a fallu la candeur de ta belle jeunesse, la pureté de ta grande âme, pour satisfaire aux exigences d'un cœur de femme exigeante. Ami, j'ai bien souvent palpité de joie en pensant que durant ces 9 années, si rapides et si longues, ma jalousie n'a jamais été réveillée. J'ai eu toutes les fleurs de ton âme, toutes tes pensées. Il n'y a pas eu le plus léger nuage dans notre ciel. Nous n'avons pas su ce qu'était un sacrifice. Nous avons toujours obéi aux inspirations de nos cœurs. J'ai joui d'un bonheur sans borne pour une femme. Les larmes qui mouillent cette page te diront-elles bien souvent toute ma reconnaissance? J'aurais voulu l'avoir écrite à genoux. Eh bien, cette félicité m'a fait connaître un supplice plus affreux que ne l'était celui de l'abandon. Cher, le cœur d'une femme a des replis bien profonds. J'ai ignoré moi-même jusqu'aujourd'hui l'étendue du mien comme j'ignorais l'étendue de l'amour. Les misères les plus grandes qui puissent nous accabler sont encore légères à porter en comparaison de la seule idée du malheur de celui que nous aimons. Et si nous le causions, ce malheur, n'est-ce pas à en mourir? Telle est la pensée qui m'oppresse. Mais elle entraîne après elle une autre beaucoup plus pesante. Celle-là dégrade la gloire de l'amour, elle le tue, elle en fait une humiliation qui ternit à jamais la vie. Tu as 30 ans et j'en ai 40. Combien de terreur cette différence d'âge n'inspire-t-elle pas à une femme aimante? Tu peux avoir d'abord involontairement, puis sérieusement, sentir les caprices que tu m'as faits en renonçant à tout au monde pour moi. Tu as pensé peut-être à ta destinée sociale, à ce mariage qui doit augmenter nécessairement ta fortune, te permettre d'avoir ton bonheur, tes enfants, te transmettre tes biens, te reparaître dans le monde et d'y occuper la place avec honneur. Mais tu auras réprimé ces pensées, heureux de me sacrifier, sans que je le sache, une héritière, une fortune et un bel avenir. Dans ta générosité de jeune homme, tu auras voulu rester fidèle au serment qui ne nous lie qu'à la face de Dieu. Mes douleurs passées te seront apparues, et j'aurai été protégé par le malheur d'où tu m'as tiré. Devoir ton amour à la pitié? Oh, cette pensée m'est plus horrible encore que la crainte de te faire manquer ta vie. Ceux qui savent poignarder leur maîtresse sont bien charitables quand ils les tuent heureuses, innocentes et dans la gloire de leurs illusions. Oui, la mort est préférable aux deux pensées qui depuis quelques jours attristent secrètement mes heures. Hier, quand tu m'as demandé si doucement « Qu'as-tu ?» ta voix m'a fait frissonner. J'ai cru que, selon ton habitude, tu lisais dans mon âme, et j'attendais tes confidences, imaginant avoir eu de justes pressentiments en devinant les calculs de ta raison. Je me suis alors souvenu de quelques attentions qui te sont habituelles, mais où j'ai cru apercevoir cette sorte d'affectation par lesquels les hommes trahissent une loyauté pénible à porter. En ce moment, j'ai payé bien cher mon bonheur. J'ai senti que la nature nous vend toujours les trésors de l'amour. En effet, le sort ne nous a-t-il pas séparés? Tu te seras dit, tôt ou tard, je dois quitter la pauvre Claire, pourquoi ne pas m'en séparer à temps? Cette phrase était écrite au fond de ton regard. Je t'ai quitté pour aller pleurer loin de toi, te dérober des larmes. Voilà les premières que le chagrin m'ait fait verser depuis 10 ans, et je suis trop fier pour te les montrer. Mais je ne t'ai point accusé. Oui, tu as raison. Je ne dois point avoir l'égoïsme d'assujettir ta vie brillante et longue à la mienne plutôt usée. Mais si je me trompais, si j'avais pris une de tes mélancolies d'amour pour une pensée de raison, ah, mon ange, ne me laisse pas dans l'incertitude. Punis ta jalouse femme, mais rends-lui la conscience de son amour et du tien. Toute la femme est dans ce sentiment qui sanctifie tout. Depuis l'arrivée de ta mère, et depuis que tu as vu chez elle Mademoiselle de la Rodière, je suis en proie à des doutes qui nous déshonorent. Fais-moi souffrir, mais ne me trompe pas. Je veux tout savoir, et ce que ta mère te dit, et ce que tu penses. Si tu as hésité entre quelque chose et moi, je te rends ta liberté. Je te cacherai ma destinée, je saurai ne pas pleurer devant toi. Seulement, je ne veux plus te revoir. Oh, je m'arrête, mon cœur se brise. Je suis resté morne et stupide pendant quelques instants. Ami, je ne me trouve point de fierté contre toi. Tu es si bon, si franc. Tu ne saurais ni me blesser, ni me tromper. Mais tu me diras la vérité, quelque cruelle qu'elle puisse être. Veux-tu que j'encourage tes aveux? Eh bien, cœur à moi, je serai consolé par une pensée de femme. N'aurais-je pas possédé de toi l'être jeune et pudique, toute grâce, toute beauté, toute délicatesse, un Gaston que nulle femme ne peut plus connaître et de qui j'ai délicieusement joui? Non, tu m'aimeras plus fort comme tu m'as aimé, comme tu m'aimes. Non, je ne saurais voir de rival. Mes souvenirs seront sans amertume en pensant à notre amour qui fait toute ma pensée. N'est-il pas hors de ton pouvoir d'enchanter désormais une femme par les agaceries enfantines, par les jeunes gentillesses d'un cœur jeune, par ces coquetteries d'âme, ces grâces du corps et ces rapides entents de volupté, enfin, par l'adorable cortège qui suit l'amour adolescent? Ah, tu es homme maintenant, tu obéiras à ta destinée en calculant tout. Tu auras des soins, des inquiétudes, des ambitions, des soucis qui la priveront de ce sourire constant, inaltérable, par lequel tes lèvres étaient toujours embellies pour moi. Ta voix, pour moi toujours si douce, sera parfois chagrine. Tes yeux, sans cesse illuminés d'un éclat céleste en me voyant, se terniront souvent pour elle. Puis, comme il est impossible de t'aimer comme je t'aime, cette femme ne te plaira jamais autant que je t'ai plu. Elle n'aura pas ce soin perpétuel que j'ai eu de moi-même et cette étude continuelle de ton bonheur dont jamais l'intelligence ne m'a manqué. Oui, l'homme, le cœur, l'âme que j'aurais connu n'existeront plus. Je les ensevelirai dans mon souvenir pour en jouir encore et vivre heureuse de cette belle vie passée, mais inconnue à tout ce qui n'est pas nous. Mon cher trésor, si cependant tu n'as pas conçu la plus légère idée de liberté, si mon amour ne te pèse pas, si mes craintes sont chimériques, si je suis toujours par toi ton Ève, la seule femme qu'il y ait dans le monde, cette lettre lui vient à court. Oh, je t'aimerai dans un instant plus que je ne t'ai aimé, je crois, pendant ces 9 années. Après avoir subi le supplice inutile de ces soupçons dont je m'accuse, chaque jour, ajouté à notre amour, oui, un seul jour sera toute une vie de bonheur. Ainsi parle, sois franc. Ne me trompe pas, ce serait un crime. Dis, veux-tu ta liberté? As-tu réfléchi à ta vie d'homme? As-tu un regret? Moi, mais te causer un regret, j'en mourrais. Je te l'ai dit, j'ai assez d'amour pour préférer ton bonheur au mien, ta vie à la mienne. Quitte, si tu le peux, la riche mémoire de nos 9 années de bonheur pour n'être pas influencé dans ta décision, mais parle. Je te suis soumise comme à Dieu, à ce seul consolateur qui me reste si tu m'abandonnes. Quand Madame de Beauséant sut la lettre entre les mains de Monsieur de Nueil, elle tomba dans un abattement si profond et dans une méditation si engourdissante par la trop grande abondance de ses pensées qu'elle resta comme endormie. Certes, elle souffrit de ces douleurs dont l'intensité n'a pas toujours été proportionnée aux forces de la femme et que les femmes seules connaissent. Pendant que la malheureuse marquise attendait son sort, M. de Nueil était, en lisant sa lettre, fort embarrassé, selon l'expression employée par les jeunes gens dans ces sortes de crises. Il avait alors presque cédé aux instigations de sa mère et aux attraits de Mademoiselle de la Rodière, jeune personne assez insignifiante, droite comme un peuplier, blanche et rose, muette à demi, suivant le programme prescrit à toutes les jeunes filles à marier. Mais ses 40 000 livres de rente en fonds de terre parlaient suffisamment pour elle. Madame de Nueil, aidée par sa sincère affection de mère, cherchait à embaucher son fils pour la vertu. Elle lui faisait observer ce qu'il y avait pour lui de flatteur à être préféré par Mademoiselle de la Rodière lorsque tant de riches parties lui étaient proposées. Il était bien temps de songer à son sort. Une si belle occasion ne se retrouverait plus. Il aurait un jour 80 000 livres de rente en bien-fonds. La fortune consolait de tout. Si Madame de Beauséant l'aimait pour lui, elle devait être la première à l'engager à se marier. Enfin, cette bonne mère n'oubliait aucun des moyens d'action par lesquels une femme peut influencer sur la raison d'un homme. Aussi avait-elle amené son fils à chanceler. La lettre de Madame de Beauséant arriva dans un moment où l'amour de Gaston luttait contre toutes les séductions d'une vie arrangée convenablement et conforme aux idées du monde. Mais cette lettre décida le combat. Il résolut de quitter la marquise et de se marier. « Ah, il faut être homme dans la vie !» se dit-il. Puis il soupçonna les douleurs que sa résolution causerait à sa maîtresse. Sa vanité d'homme autant que sa conscience d'amant, les lui grandissant encore, il fut pris d'une sincère pitié. Il ressentit tout d'un coup cet immense malheur et crut nécessaire, charitable, d'amortir cette mortelle blessure. Il espéra pouvoir amener Madame de Beauséant à un état calme et se faire ordonner par elle ce cruel mariage en l'accoutumant par degrés à l'idée d'une séparation nécessaire, en laissant toujours entre eux Mademoiselle de la Rodière comme un fantôme et en la lui sacrifiant d'abord pour se la faire imposer plus tard. Il allait, pour réussir dans cette compatissante entreprise, jusqu'à compter sur la noblesse, la fierté de la marquise et sur les belles qualités de son âme. Il lui répondit alors, afin d'endormir ses soupçons. Répondre, mais pour une femme qui joignait à l'intuition de l'amour vrai les perceptions les plus délicates de l'esprit féminin, la lettre était un arrêt. Aussi, quand Jacques entra, qu'il s'avança vers Madame de Beauséant pour lui remettre un papier plié triangulairement, la pauvre femme tressaillit-elle comme une hirondelle prise. Un froid inconnu tomba de sa tête à ses pieds en l'enveloppant d'un linceul de glace. S'il n'accourait pas à ses genoux, s'il n'y venait pas pleurant, pâle, amoureux, tout était dit. Cependant, il y a tant d'espérance dans le cœur des femmes qui aiment. Il faut bien des coups de poignard pour les tuer. Elles aiment et saignent jusqu'au dernier. « Madame a-t-elle besoin de quelque chose ?» demanda Jacques d'une voix douce en se retirant. « Non, dit-elle. » « Pauvre homme, pensa-t-elle en essuyant une larme. Il me devine, lui, un valet. » Elle lut. Ma bien-aimée, tu te crées des chimères. En apercevant ces mots, un voile épais se répandit sur les yeux de la marquise. La voix secrète de son cœur lui disait : Il ment. Puis, sa vue embrassant toute la première page avec cette espèce d'avidité lucide que communique la passion, elle avait lu en bas ces mots. Rien n'est arrêté. Tournant la page avec une vivacité convulsive, elle vit distinctement l'esprit qui avait dicté les phrases entortillées de cette lettre, où elle ne retrouva plus les jets impétueux de l'amour. Elle la froissa, la déchira, la roula, la mordit, la jeta dans le feu et s'écria « Oh, l'infâme ! Il m'a possédé, ne m'aimant plus !» Puis, demi-morte, elle alla se jeter sur son canapé. Monsieur de Nueil sortit après avoir écrit sa lettre. Quand il revint, il trouva Jacques sur le seuil de la porte et Jacques lui remit une lettre en lui disant « Madame la marquise n'est plus au château. » Monsieur de Nueil, étonné, brisa l'enveloppe et lut. Madame, si je cessais de vous aimer en acceptant les chances que vous m'offrez d'être un homme ordinaire, je mériterais bien mon sort, avouez-le. Non, je ne vous obéirai pas, et je vous jure une fidélité qui ne se dira que par la mort. Oh, prenez ma vie, à moins cependant que vous ne craigniez de mettre un remords dans la vôtre. » C'était le billet qu'il avait écrit à la marquise au moment où elle partait pour Genève. Au-dessous, Claire de Bourgogne avait ajouté « Monsieur, vous êtes libre. » Monsieur de Nueil retourna chez sa mère à Manerville. 20 jours après, il épousa Mademoiselle Stéphanie de la Rodière. Si cette histoire d'une vérité vulgaire se terminait là, ce serait presque une mystification. Presque tous les hommes n'en ont-ils pas une plus intéressante à se raconter. Mais la célébrité du dénouement, malheureusement vrai, mais tout ce qu'il pourra faire naître de souvenirs au cœur de ceux qui ont connu les célestes délices d'une passion infinie et l'ont brisée eux-mêmes ou perdue par quelque fatalité cruelle, mettront peut-être ce récit à l'abri des critiques. Madame de la marquise de Beauséant n'avait point quitté son château de Valleroy lors de sa séparation avec Monsieur de Nueil. Par une multitude de raisons qu'il faut laisser ensevelies dans le cœur des femmes, et d'ailleurs chacune d'elles devinera celles qui lui seront propres, Claire continua d'y demeurer après le mariage de Monsieur de Nueil. Elle vécut dans une retraite si profonde que ses gens, sa femme de chambre et Jacques excepté, ne la virent point. Elle exigeait un silence absolu chez elle et ne sortait de son appartement que pour aller à la chapelle de Valleroy où un prêtre du voisinage venait lui dire la messe tous les matins. Quelques jours après son mariage, le comte de Nueil tomba dans une espèce d'apathie conjugale qui pouvait faire supposer le bonheur tout aussi bien que le malheur. Sa mère disait à tout le monde « Mon fils est parfaitement heureux !» Madame Gaston de Nueil, semblable à beaucoup de jeunes femmes, était un peu terne, douce, patiente. Elle devint enceinte après un mois de mariage. Tout cela se trouvait conforme aux idées reçues. Monsieur de Nueil était très bien pour elle, seulement il fut, 2 mois après avoir quitté la marquise, extrêmement rêveur et pensif. « Mais il avait toujours été sérieux, » disait sa mère. Après 7 mois de ce bonheur tiède, il arriva quelques événements légers en apparence, mais qui comporte de trop large développement de pensée et accuse de trop grands troubles d'âme, pour n'être pas rapporté simplement et abandonné aux caprices des interprétations de chaque esprit. Un jour, pendant lequel M. de Nueil avait chassé sur les terres de Manerville et de Valleroy, il revint par le parc de Madame de Beauséant, fit demander Jacques, l'attendit. Et quand le valet de chambre fut venu, « La marquise aime-t-elle toujours le gibier ?» lui demanda-t-il. Sur la réponse affirmative de Jacques, Gaston lui offrit une somme assez forte, accompagnée de raisonnements très spécieux, afin d'obtenir de lui le léger service de réserver pour la marquise le produit de sa chasse. Il parut fort peu important à Jacques que sa maîtresse mangeât une paire de riz tuée par son garde ou par M. de Nueil, puisque celui-ci désirait que la marquise ne sût pas l'origine du gibier. « Il a été tué sur ses terres, » dit le comte. Jacques se prêta pendant plusieurs jours à cette innocente tromperie. M. de Nueil partait dès le matin pour la chasse et ne revenait chez lui que pour dîner, n'ayant jamais rien tué. Une semaine entière se passa ainsi. Gaston s'enhardit assez pour écrire une longue lettre à la marquise et la lui fit parvenir. Cette lettre lui fut renvoyée sans avoir été ouverte. Il était presque nuit quand le valet de chambre de la marquise la lui rapporta. Soudain, le comte s'élança hors du salon où il paraissait écouter un caprice d'Hérold décorché sur le piano par sa femme et courut chez la marquise avec la rapidité d'un homme qui vole à un rendez-vous. Il sauta dans le parc par une brèche qui lui était connue, marcha lentement à travers les allées en s'arrêtant par moments comme pour essayer de réprimer les sonores palpitations de son cœur, puis, arrivé près du château, il en écouta les bruits sourds et présuma que tous les gens étaient à table. Il alla jusqu'à l'appartement de Madame de Beauséant. La marquise ne quittait jamais sa chambre à coucher, et M. de Nueil put en atteindre la porte sans avoir fait le moindre bruit. Là, il vit à la lueur de deux bougies la marquise, maigre et pâle, assise dans un grand fauteuil, le front incliné, les mains pendantes, les yeux arrêtés sur un objet qu'elle paraissait ne point voir. C'était la douleur dans son expression la plus complète. Il y avait dans cette attitude une vague espérance, mais l'on ne savait si Claire de Bourgogne regardait à la tombe ou dans le passé. Peut-être les larmes de M. de Nueil brillèrent-elles dans les ténèbres, peut-être sa respiration eut-elle un léger retentissement, peut-être lui échappa-t-il un tressaillement involontaire, ou peut-être sa présence était-elle impossible sans le phénomène d'intussusception dont l'habitude est à la fois la gloire, le bonheur et la preuve du véritable amour. Madame de Beauséant tourna lentement son visage vers la porte et vit son ancien amant. Le comte fit alors quelques pas. « Si vous avancez, monsieur, s'écria la marquise en pâlissant, je me jette par cette fenêtre. » Elle sauta sur l'espagnolette, l'ouvrit et se tint un pied sur l'appui extérieur de la croisée, la main au balcon et la tête tournée vers Gaston. « Sortez, sortez » cria-t-elle, « ou je me précipite. » À ce cri terrible, M. de Nueil, en entendant les gens et moi, se sauva comme un malfaiteur. Revenu chez lui, le comte écrivit une lettre très courte et chargea son valet de chambre de la porter à Madame de Beauséant en lui recommandant de faire savoir à la marquise qu'il s'agissait de vie ou de mort pour lui. Le messager partit, M. de Nueil rentra dans le salon et y trouva sa femme qui continuait à déchiffrer le caprice. Il s'assit en attendant la réponse. Une heure après, le caprice fini, les deux époux étaient l'un devant l'autre, silencieux, chacun d'un côté de la cheminée, lorsque le valet de chambre revint devant le roi et remit à son maître la lettre qui n'avait pas été ouverte. M. de Nueil passa dans un boudoir attenant au salon où il avait mis son fusil en revenant de la chasse et se tua. Ce prompt et fatal dénouement, si contraire à toutes les habitudes de la jeune France, est naturel. Les gens qui ont bien observé ou délicieusement éprouvé les phénomènes auxquels l'union parfaite de deux êtres donne lieu comprendront parfaitement ce suicide. Une femme ne se forme pas, ne se plie pas en un jour aux caprices de la passion. La volupté, comme une fleur rare, demande les soins de la culture la plus ingénieuse. Le temps, l'accord des âmes, peuvent seuls en révéler toutes les ressources, faire naître ces plaisirs tendres, délicats, pour lesquels nous nous sommes imbus de mille superstitions et que nous croyons inhérents à la personne dont le cœur nous les prodigue. Cette admirable entente, cette croyance religieuse et la certitude féconde de ressentir un bonheur particulier ou excessif près de la personne aimée sont en partie le secret des attachements durables et des longues passions. Près d'une femme qui possède le génie de son sexe, l'amour n'est jamais une habitude. Son adorable tendresse sait revêtir des formes si variées. Elle est si spirituelle et si aimante tout ensemble. Elle met tant d'artifices dans sa nature, ou de naturel dans ses artifices, qu'elle sera aussi puissante par le souvenir qu'elle l'est par sa présence. Auprès d'elle, toutes les femmes pâlissent. Il faut avoir eu la crainte de perdre un amour si vaste, si brillant, ou l'avoir perdu, pour en connaître tout le prix. Mais si, l'ayant connu, un homme s'en est privé pour tomber dans quelque mariage froid, si la femme avec laquelle il a espéré rencontrer les mêmes félicités lui prouve par quelques-uns de ses faits ensevelis dans les ténèbres de la vie conjugale qu'elles ne reconnaîtront plus pour lui, s'il a encore sur les lèvres le goût d'un amour céleste et qu'il ait blessé mortellement sa véritable épouse au profit d'une chimère sociale, alors il lui faut mourir, ou avoir cette philosophie matérielle, égoïste, froide, qui fait horreur aux âmes passionnées. Quant à Madame de Beauséant, elle ne crut sans doute pas que le désespoir de son ami alla jusqu'au suicide, après l'avoir largement abreuvé d'amour pendant 9 années. Peut-être pensait-elle avoir seule à souffrir. Elle était d'ailleurs bien en droit de se refuser au plus avilissant partage qui existe, et qu'une épouse peut subir par de hautes raisons sociales, mais qu'une maîtresse doit avoir en haine, parce que dans la pureté de son amour en réside toute la justification. Angoulême, septembre 1832.